France Guimard Roche vous propose une promenade estivale pour aller flâner du côté du château de Ferrières jusqu'à l'hôtel Lambert sur une île à Paris avec Marie-Hélène et Guy de Rothschild, un couple romantique à souhait. Marie-Hélène de Rothschild, une broche d'émeraude, de rubis et de diamants accrochée sur sa lourde frange tombant sur son front, une couronne d'étoiles avec une lune sur le devant, une longue mantille noire piquetée d'or sur ses cheveux blonds vénitiens, assiste à son bal en reine de la nuit. Elle est la perfection même. Chantait-elle Mozart en plus ? Dans son livre « Contre bonne fortune », le baron Guy parle de son épouse avec autant d'affection que d'admiration. Marie-Hélène aime donc les fêtes. Depuis les anniversaires de chacun, organiser une petite réunion familiale et justement son premier cadeau, jusqu'à Noël, sa fête préférée. 20 années durant, Ferrières fut le cadre de ces Noëls où je revivais les plus belles heures de mon enfance, avec un arbre encore plus grand. Le repas de réveillon dans la salle à manger décoré chaque année selon un nouveau thème romantique. Des montagnes de cadeaux qui mangeaient le salon à hauteur et en profondeur. Et la féerie de la nuit qui s'écoulait lentement et qui n'était plus qu'échange de cadeaux de chacun à chacun. Mais elle aime aussi la fête pour la fête. Parenthèse qu'on ouvre dans le temps comme la respiration. Le sourire de la vie. Un décor sorti de l'imaginaire où viennent danser ensemble la gaieté, l'éblouissement et le rêve. Chaque détail revêt alors une importance essentielle. Une seule fausse note suffit à briser une mélodie. Donner une fête ne rime pas forcément avec faire la fête. Les nuits illuminées demandent des nuits blanches. Pénélope, aidée par quelques amis épuisés, elfait et défait sans fin les tables jusqu'à ce que chaque convive ait enfin un voisin selon son cœur. Et puis, il faut tout composer, tout imaginer, bouger 100 fois une fleur, une lumière, un décor jusqu'à la dernière minute. Il est du rôle de chacun, avec ses couleurs et selon ses goûts, de savoir éclairer sa vie d'inutile, d'oser l'enrichir de quelques éclats d'éphémère. Le superflu, chose si nécessaire, disait déjà un locataire de l'hôtel Lambert, Voltaire. Je parlerai donc des fêtes de Marie-Hélène, puisqu'on en a parlé. On les a louées, on les a critiquées, on ne les a pas oubliées. Marie-Hélène multipliait les occasions, tandis que j'essayais de la retenir sur cette piste aux étoiles, tout en sachant qu'il est des dépenses peu sages qui n'ont rien d'une folie. Il faut que les financiers n'oublient pas d'être des savetiers, et qu'au jour, ils se souviennent de chanter pour oublier leurs comptes. Je ne vais pas dresser le florilège des fêtes données ou organisées par Marie-Hélène. 2 grands soirs de ferrière seulement. Une nuit du temps perdu et l'autre du temps imaginaire. Le bal Proust et le bal surréaliste. Le 12 décembre 1972, un carton découpé dans un ciel de Magritte, entre les nuages flottaient d'étranges hiéroglyphes, dut poser quelques problèmes au récipiendaire. Il fallait avoir l'idée de lire le texte dans un miroir pour découvrir qu'on était convié à un dîner surréaliste. Au fond de l'allée noire, le château, éclairé de lumière rouge, semblait la proie des flammes. Dans l'escalier d'honneur, j'allais écrire d'horreur. Tout semblait calme, harmonieux, grandiose, comme à l'accoutumée. Une armée de laquais, mais une armée de laquais aux têtes de chat, dormait sur les degrés, sur les rampes, sur les balcons, dans les poses les plus invraisemblables. Alors commençait un invraisemblable voyage le long d'un labyrinthe obscur, d'une forêt de rubans noirs qu'il fallait écarter comme des branchages, tâtonnant dans cette ombre dont surgissait de loin en loin un de ces chats en livrée, porteur de flambeaux, des fantômes, des animaux étranges parmi des toiles d'araignées géantes. Des textes oubliés de Mac Jacob ou de Carco se murmuraient au passage. Le chemin était si long qu'enfin, frissonnant d'une délicieuse épouvante, les invités franchissaient avec un soupir de soulagement les dernières portes de l'enfer. Dans le salon des tapisseries, impassible dans ses ors, ses rouges et ses roses, Marie-Hélène, je veux dire ma femme, serre aux larmes de diamant, et moi, coiffés d'un énorme présentoir de nature morte, nous efforcions de ne pas nous exclamer et d'avoir l'air de reconnaître ces inconnus fous alliés. Un pianiste, invisible quelque part, jouait des airs de Satie.
Calmer ma détresse.
Dans les salons, une guirlande extraordinaire de masques, sortie des toiles de Magritte, de Max Ernst, de Chirico, de Picabia, de Delvaux, de Tanguy et bien sûr de Dali, se congratulaient de leur mutuelle trouvaille. Et soudain, on rencontrait le divin Dali, en chair et en os, qui n'avait eu besoin que de cirer sa moustache sans avoir à chercher sa tête, mais qui, digne, dans un fauteuil roulant, était poussé par deux infirmières sous un parapluie éclatant de flashs, un rayon laser s'échappant de sa main géniale. Sa muse, Gala, dans ses habits de gala. Léonore Fini, le peintre surréaliste, était un oiseau de nuit. Le peintre Stanislao Lepri enfouissait dans une longue barbe un peuple d'enfants en celluloïdes. Petits poussés perdus dans la forêt poivre et sel. On butait sur des fruits tombés de leurs arbres. Les têtes en forme de pommes s'allongeaient devant les poires. Les architectures jalousaient les mécanismes d'horlogerie. Les animaux de la création faisaient concurrence à ceux de l'imagination. Les bêtes de l'enfer traquaient méchamment les rescapés du paradis terrestre. Et puis, l'inattendu, justement. L'exquise Audrey Hepburn avait mis sa tête en cage. Elle en ouvrait une petite porte pour manger. Alexis de Rédé portait un masque à tiroir, rempli de portraits de Marie-Hélène sur fond de Joconde souriant, mais sur quatre profils et d'un sourire différent. Michel Guy avait planté dans son crâne chauve un poignard dégoûtant de rubis. Denise Thyssen était la femme aux deux visages. Elle portait sa propre tête, reproduite à s'y méprendre, au-dessus de la sienne, et les deux chevelures blondes se mêlaient inextricablement. On ne savait littéralement pas à laquelle on parlait. Abasourdi d'entendre la réponse descendre de la mauvaise tête. Thank you.
roll so high, play it cool as can be. He'll give it a whirl, but hand for no girl catching me. Telephone numbers, while you know, doing my room bus, which you know, and that in my satin door.
Les invités qui avaient reçu des cartons leur indiquant leur table, table au chat d'or qui dort, table des reines déchues, table des poupées loupées, chaloupées, table des souliers fous alliés, n'en étaient pas plus éclairés pour autant. Ils erraient dans un désordre total, malicieusement guidés par des maîtres d'hôtel en chapeau haute forme, œillés à la boutonnière, qui avaient reçu mission de résoudre ces rébus et de les conduire enfin jusqu'à leur place. Chaque table, nappée de ciel, présentait en son centre une composition inspirée de tel peintre ou de tel poète surréaliste. Elle se voulait loufoque, hétéroclite et poétique à la fois. La table aux œufs florentines était une montagne de vrais épinards, cuits, parcourus par la squelette d'oiseaux géants, parsemée de seins de femmes. Devant chaque convive, une assiette en fourrure, avec un carré de ciel portant son nom, coincé entre les lèvres rouges de Mae West. Un petit pain bleu, le fameux pain peint avec de la peinture. Un verre à étiquette d'écolier, un vin, un appareil à faire des bulles et un menu. C'était un menu calligraphié entre azur et nuée, d'autant plus délirant qu'aucun des 60 convives n'y lisait la même chose. Ce qui s'appelait pour l'un soupe extra lucide devenait pour un autre consommé à l'œil cacodilate. Les patates tristes s'appelaient aussi pommes soufflées d'être là ou tubercules en folie, les salades laitues de l'un. « Tais-toi et mâche » de l'autre précédaient les choses dégoulinantes qui s'écrivaient aussi « beaucoup de bris pour rien » ou « vaches et chèvres hurlant de tristesse ». Enfin, venait le dessert des tartares qui, justement, sur un autre menu, se lisait aussi « enfin ».
Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When she woke up and found that her dream of love was gone, madam. She ran to the man who had led her so far astray. And from under her velvet gown, she drew a gun and shot her lover down. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Came and got her and dragged her from the jail. Madam, they strung her upon the old willow across the way. And the moment before she died, she lifted up her lovely head and cried, Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
On avait dû bien s'amuser à chercher des idées, à brouiller ses idées plutôt pour rédiger ses perles. Pas toujours drôle. Les plats annoncés étant ainsi parfaitement mal définis, nul ne pouvait avoir la moindre idée de ce qu'il allait savourer. Enfin, et sous les applaudissements, apparut, portée par 8 hommes, une femme nue, en sucre, sur un lit de rose, qui s'offrait au coup de marteau avant d'être dévorée. Dessert des barbares. Après le dîner, on s'égaya de nouveau dans les salons. On s'en fut danser dans le nightclub Turquerie. On se fit photographier sur un canapé lèvres de Dali, sous le portrait de Mae West. On tournoya jusqu'au matin, enchantée de soi-même. Enchantée d'être là ? Enchanté. Marie-France Guimard-Roche retrouvera avec vous les Rothschild pour danser avec eux tout l'été dans une série d'émissions enregistrées et réalisées par Émilie Glory dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.